Bonjour.
Est-ce que ça marche? Ça fonctionne? Oui. Merci. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Vous avez le titre de la prédication de ce matin. Quel don construit-il le projet de Dieu à Villars? Alors, quel don? J'aimerais déjà vous dire que moi, je désirerais tous les dons pour Villars. Vous savez ce qu'est une église parfaite, et je souhaiterais que nous soyons une église parfaite. En son temps, lorsqu'on parlait d'une église parfaite, on avait une image. Il s'agissait de quelqu'un qui avait les pieds des témoins de Jéhovah, parce que vous savez que les témoins de Jéhovah vont partout pour annoncer leur doctrine. Quelqu'un qui avait les bras des salutistes, parce que les salutistes travaillent dans le social et bénissent les gens. Quelqu'un qui a le cœur des pentecôtistes, parce qu'il y a un feu dans le cœur des pentecôtistes. Et puis quelqu'un qui a la tête des darbistes, parce que les darbistes connaissent bien leur Bible. Voilà l'Église parfaite. Alors, si vous êtes d'accord de travailler à cette Église et de faire de Villars cette Église, alors on est ensemble et on va pouvoir travailler au plan de Dieu pour nous. Vous voyez que ce thème de ce matin ressemble étrangement au thème que nous avons vu dimanche passé. Anne-Catherine Piguet nous a parlé des dons pour l'Église. Donc je vais en parler de nouveau, ça va un peu ressembler peut-être à quelque part à ce message que vous avez entendu, ou vous entendrez quelques éléments du message dimanche passé. La différence qu'il va y avoir essentiellement, c'est que Anne-Catherine nous a apporté sous forme d'une prédication-méditation, je vous l'apporte sous forme d'une stratégie. Alors dimanche passé, peut-être que les littéraires ont été satisfaits, et j'espère que ce matin, vous serez, vous les scientifiques, contents de prendre par le biais d'une stratégie. Donc ça sera un petit peu différent. Quand on parle de stratégie, il faudrait donner carrément un séminaire sur ce sujet, d'autant plus que si c'est une stratégie dans laquelle se trouve Dieu, tout reste ouvert. On n'a rien dit quand on croit qu'on a tout dit. Si cette stratégie dont je vais vous parler ce matin est pour l'Église de Villars, elle s'adresse aussi à l'Église en général. Pour vous apporter ce message, j'ai pris beaucoup de raccourcis, je vais vous donner comme un squelette, je ferai peu de commentaires par rapport aux slides qui passeront sur l'écran, de telle sorte que nous puissions finir assez rapidement. Pour mener à bien notre tâche de chrétien, nous devons connaître le projet de Dieu dans le monde. Quel est le projet de Dieu dans le monde et quel est le projet de Dieu pour l'Église? Quel est-il? Si on vous pose cette question, qu'allez-vous répondre? Parce que si nous ne savons pas l'objectif de Dieu concernant son projet, comment allons-nous mettre en place une stratégie pour l'atteindre? Donc, il serait bon de connaître le projet de Dieu. Nous avons l'habitude de penser qu'il s'agit de notre salut personnel. Est-ce que c'est là le projet de Dieu, mon salut? Ah, c'est important. Et Dieu a tout fait pour notre salut. Mais si c'était là le projet de Dieu pour l'humanité, nous serions centrés sur nous-mêmes et nous serions centrés sur notre salut. Mais le salut est dans le cœur de Dieu et est essentiel dans le projet de Dieu. J'ai marqué que c'est un moyen pour que Dieu arrive à ses fins. Sinon, une fois que nous serions convertis, Jésus venant dans notre vie, il n'y aurait aucune raison que nous restions sur cette terre, il nous enlèverait. Alors quel est le but de Dieu? Quel est son objectif? C'est plus vaste que notre salut. C'est de construire son royaume sur la terre. On sait que ce royaume sera pleinement sur la terre lorsque Jésus reviendra. Le royaume de Dieu, c'est là où se fait sa volonté. Son mode de fonctionnement, c'est l'amour, le pardon, la justice, la vérité, la joie, la connaissance, etc. Et pour le moment, tant que nous sommes loin du Seigneur, le moteur en est la foi. Et voyez-vous, ce royaume de Dieu, c'est à quelque part quelque chose que nous demandons dans nos prières. Nous ne demandons pas notre salut, nous demandons le royaume de Dieu. Je vais vous montrer la prière que nous aimons dire ensemble. C'est le Notre Père. Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne parlons pas de notre salut personnel, mais nous parlons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous prenons la traduction de la Tobe, nous voyons qu'il est mis « Fais-toi reconnaître comme Dieu » à la place de « Que ton nom soit sanctifié ». Et ça semble être beaucoup plus judicieux de traduire par « Fais-toi reconnaître comme Dieu ». Que ton règne vienne, c'est « Fais venir ton règne ». Que ta volonté soit faite, c'est « Fais se réaliser ta volonté sur la terre comme au ciel ». Tous les verbes sont au passif. Et lorsque les verbes sont au passif, ça veut dire que c'est Dieu qui fait. Et nous serions bien incapables, vous êtes d'accord, de dire que nous allons faire venir le règne de Dieu sur la terre, ou que nous allons faire se réaliser sur la terre sa volonté. Dieu seul est capable de le faire. Mais comment fait-il pour arriver à ses fins? Comment Dieu exauce-t-il notre prière? Alors nous allons lire un texte que nous avons déjà lu la semaine passée. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Dieu fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres. Quand il est question des apôtres ici, il ne s'agit pas des 12 apôtres, mais il s'agit bien du ministère d'apôtres qui a suivi. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 4 à 5 ministères de base, des hommes et des femmes, appelés et équipés par Dieu. C'est cette expression que j'emploie, appelés et équipés par Dieu. D'autres disent, ce sont des personnes qui ont reçu une onction particulière pour exercer un ministère. Leur but, c'est servir. Moi, je trouve que c'est super. Nous avons des gens qui sont donnés par Dieu pour nous servir. Et moi, j'aime bien être servi. Et j'aime bien quand le travail se fait dans l'Église et qu'il y a des serviteurs qui font tout le travail qu'il y a à faire dans l'Église. Mais voilà ce qui nous est dit. Leur service n'est pas tout à fait de faire fonctionner l'Église, de faire tout le boulot dans l'Église. En vue du perfectionnement des saints, les saints, c'est nous, les chrétiens. En vue de l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps de Christ. Il y a là, en tout cas, 2 constructions qui nous sont proposées. C'est notre construction en tant qu'individu et temple du Saint-Esprit que Dieu veut construire et il emploie les ministères pour nous aider à nous construire. Et il y a une 2e construction, c'est le royaume de Dieu dont nous sommes les constructeurs. Et ses serviteurs sont là pour nous rendre aptes à devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Donc, quand le couple Michel, nos futurs pasteurs, viendront, ne pensons pas que c'est à eux à faire tourner la baraque. Eux sont là pour nous rendre aptes à faire tourner la baraque. Ou si vous préférez, à construire le royaume de Dieu, ce qui est beaucoup plus beau que simplement faire tourner la baraque. À construire le royaume de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu ces ministères qui nous sont donnés, je vais vous donner quelques caractéristiques simplifiées de ces ministères. Alors, j'aimerais dire tout de suite que les caractéristiques que je vais vous donner de ces ministères, de ces cinq ministères, j'en ai mis cinq et pas quatre, j'ai envie de dire que ce sont comme si ces ministères étaient purs. Par exemple, si je prends apôtre, c'est vraiment un apôtre 100% apôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, la plupart du temps, il y a des mélanges de caractéristiques. Et souvent, les caractéristiques que je vais vous donner ne sont pas absolues dans la personne qui les possède. L'apôtre, il est dans le domaine de la révélation. La parole devient vivante lorsqu'il la prêche. Ça ne veut pas dire que quand un pasteur prêche la parole, qu'elle ne devient pas vivante. Mais souvent, il va mettre en évidence des choses qui sont un peu cachées. Parfois même, il va rechercher peut-être des vérités oubliées et les mettre en lumière pour que l'Église puisse y participer. Au travers de son ministère, les gens expérimentent la vie de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, son amour, sa joie. Les gens sont comme visités par ces vertus de Dieu. Il met les gens en route. Son attention est plutôt dirigée vers le ciel et pas vers les gens. Le ciel, au travers de le ministère, va plutôt rejoindre les gens. Ce qui veut dire que si vous avez affaire à un apôtre et que vous avez des problèmes, il ne s'intéressera que moyennement à vos problèmes. Il a d'autres objectifs. Le prophète, c'est quelqu'un qui a un accès particulier auprès de Dieu. C'est de là qu'il va recevoir des paroles à communiquer. Il avertit, il dénonce, il oriente, il encourage, il exhorte, il édifie par la prophétie. Il reçoit des messages et il donne des messages qui sont plutôt inspirés. Il peut avoir des visions et des paroles parfois personnelles qui sont elles aussi inspirées. Vous voyez que je prends des raccourcis, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je prends des raccourcis simplement pour qu'on voit un peu cette différence qu'il y a entre ces différents ministères. L'évangéliste, il a un cœur pour les perdus, il prêche l'évangile, même avec peu de moyens, il amène les gens à Jésus. Le docteur, il a un amour pour la parole. Il est le gardien de la parole de Dieu. Il est le gardien de la doctrine aussi. Il actualise la parole. Ce que je veux dire par là, c'est comment vivre sa foi dans un monde différent du monde des Écritures. C'est le rôle du docteur de nous indiquer ce genre de choses. Comment vais-je vivre ma foi dans un monde si différent du monde des Écritures et dans un monde en pleine évolution? Comment vivre les nouvelles technologies? Comment vivre les avancées de la nanotechnologie, de l'homme augmenté, de la génétique, de l'information? Comment allons-nous vivre ces choses-là? C'est le rôle du docteur de nous le dire. Le pasteur, il a un amour pour les gens. Il encourage les personnes à se nourrir sainement, spirituellement. Il forme, va chercher la brebis perdue, rassemble. Son attention est tournée vers les gens. Et il présente la terre au ciel. Il va prier pour les gens. Et il va présenter le corps de Christ au Père. Ici, je fais un petit récapitulatif des caractéristiques de ces ministères. J'ai laissé prophète juste sous apôtre. En réalité, le prophète, il a plutôt un ministère transversal qui va dans tous les domaines. L'apôtre, le prophète, ont plutôt des ministères de la parole, de la révélation et de l'expérience. L'évangéliste, il aura plutôt un ministère de la parole et de l'expérience. Docteurs et pasteurs vont plutôt se trouver aussi dans un ministère de la parole, bien sûr. Tous, vous voyez, sont dans le ministère de la parole, docteurs de la parole, de la connaissance, des soins et de la formation. Et je trouve intéressant, quand nous avons un schéma de ce type-là, d'imaginer que le couple Michel, notre couple pastoral, viendra, deux personnalités différentes, et on peut se dire qu'ils pourront peut-être nous conduire et nous faire grandir dans ces différentes directions. Vous voyez que, parole, révélation, expérience, là on est plutôt dans le domaine de la croissance du royaume de Dieu et de l'expansion du royaume de Dieu. Dans le domaine du docteur et du pasteur, on est plutôt dans le domaine de l'enracinement du royaume de Dieu. J'aimerais juste attirer votre attention sur les risques qu'il peut y avoir au travers de ces ministères. Dans une communauté qui privilégierait apôtres, prophètes et évangélistes, donc le domaine de l'expérience, eh bien on ne peut pas construire sa vie uniquement sur de l'expérience. Si nous allons à une rencontre et que nous sommes visités par l'amour de Dieu, eh bien, le lendemain, il faudra bien vivre notre quotidien. Et souvent, l'expérience va toucher nos émotions, et une fois que les émotions se seront apaisées, s'estomperont, le risque, c'est que la personne recherche de nouveau de l'expérience. En fait, l'expérience va mettre un dépôt dans la personne, mais pour vivre le quotidien, il faut plus que seulement de l'expérience. La même chose si dans une église, il n'y a que pasteur et docteur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va construire sa vie que sur du savoir, et il va nous manquer l'expérience que ce savoir devrait nous apporter. C'est-à-dire que les gens ne vont pas expérimenter l'amour de Dieu intérieurement. Ou par exemple, j'étais dans un groupe où les gens étaient tous des docteurs et parlaient de la repentance. La théorie était bonne, c'était magnifique, et je me demandais qui parmi ces personnes avait une fois vécu une véritable repentance. L'expérience n'était pas là. Il y avait le savoir, mais pas l'expérience. Nous avons, nous, fait cette expérience avec nos jeunes, nos deux aînés, qui sont allés dans des camps et ont trouvé formidable quand ils revenaient de ces camps parce qu'ils étaient enthousiastes pour le Seigneur. Dans ces camps, il y avait sans doute essentiellement des ministères apostoliques, des ministères prophétiques et peut-être des évangélistes aussi. Et ils avaient vécu des expériences, visite du Saint-Esprit, sentir l'amour de Dieu, certains étaient tombés, c'est la puissance de Dieu qui se manifestait, enfin, toutes sortes d'expériences, et ils revenaient, mais enthousiastes. Le problème, c'est que le lundi matin, il fallait se lever, aller à l'école, aller au gymnase ou aller au travail, et ça devenait un petit peu plus difficile. Et le dimanche, il fallait aller venir à l'église de Villars. Et c'était encore plus difficile. Parce qu'ils recherchaient l'expérience, alors que ici, on cherche l'enracinement et on vise plus le quotidien. C'est pourquoi les ministères doivent travailler ensemble. Les ministères doivent absolument travailler ensemble. Un prophète a besoin d'un docteur. Un apôtre a besoin d'un docteur. Nos jeunes nous avaient raconté cette histoire, c'est qu'ils avaient vécu plein de choses magnifiques dans un camp, mais au niveau de la doctrine, ils n'étaient pas très convaincus. Et je me rappelle, nos aînés, ont envoyé un mail à celui qui avait prêché pour lui dire « on n'est pas d'accord avec toi sur certaines choses, même si nous avons vécu des choses extraordinaires. » Le prophète risque de dévier. Et si vous avez beaucoup d'apôtres et qu'il n'y a pas de docteur, il y a un risque de déviation et de partir progressivement dans des doctrines qui ne sont pas justes. C'est pourquoi c'est indispensable que ces ministères travaillent ensemble. Je vais un petit peu vous chicaner. Je pense que je vous ai peut-être un peu déjà chicané, je ne sais pas, avec mon approche particulière. Mais quelle est la place Quelle est la place des ministères dans l'Église? Quel est le ministère prioritaire dans l'Église? Je dis prioritaire, qu'on devrait prioriser. Nous avons tendance à prioriser le ministère pastoral. Et Anne-Catherine Piguet nous disait dimanche passé que c'est depuis Calvin seulement que cela s'est fait comme ça, et qu'il fallait qu'on réfléchisse autrement. Bien, elle a parfaitement raison, parce que voilà ce que nous dit l'Écriture. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. On voit que l'ordre de priorité de Dieu, c'est plutôt les apôtres, c'est-à-dire privilégier l'expansion de l'Église. Mais bien sûr que les autres dons doivent être là. S'ils ne sont pas là, il y a le risque que l'Église s'étende, mais ne s'enracinant pas, elle dévie, elle s'émèche, elle disparaisse. Une personne a rarement un ministère type. Souvent, c'est une combinaison de ministères. Vous allez trouver des pasteurs docteurs, des pasteurs évangélistes, etc. Si vous prenez dans les journaux Vivre ou bien Christianisme Aujourd'hui, vous allez voir qu'on cherche des pasteurs. Beaucoup d'églises cherchent des pasteurs, jamais d'apôtres. Mais si vous lisez les caractéristiques qui sont mentionnées, c'est marqué « on cherche pasteur, mais pasteur qui peut gérer des projets, qui peut motiver son église. » Donc ça veut dire qu'on est déjà en train de chercher un pasteur qui a des caractéristiques d'apôtre. Un pasteur me disait, il avait répondu à une annonce dans un journal, et il s'est présenté dans une église. Et puis on lui a dit, oui, mais attendez, vous êtes un pasteur enseignant, un pasteur docteur. Et puis, c'est une église la frayée. Hein. Et puis, nous, on cherche un pasteur qui peut motiver les gens et qui peut gérer des projets. Alors donc, ce qui veut dire qu'on met souvent sous le nom de pasteur des ministères qui sont pas tout à fait vraiment le ministère pastoral du soin qu'on donne aux personnes. Alors voilà, je vous ai parlé des ministères, mais nous n'avons pas tous un ministère, au sens où je viens de le dire. Certains sont appelés à ce ministère et reçoivent une onction pour ce ministère. Et sans appel pour un ministère, eh bien nous avons tous un appel sur notre vie. Nous avons un appel sur notre vie parce que, par le Saint-Esprit, parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie, Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors nous avons déjà cet appel d'être enfants de Dieu. L'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un deuxième appel, c'est d'être témoins de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est le deuxième appel que nous avons. Nous avons un troisième appel, c'est être constructeur du royaume de Dieu. Et je rappelle juste, en vue de l'œuvre du ministère, c'est nous, hein. On doit nous préparer en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification, de la construction du corps de Christ ou du royaume de Dieu. Alors tous, nous sommes appelés à construire le royaume de Dieu, chacun avec sa personnalité, chacun avec les forces qu'il a, chacun avec ce que Dieu lui a donné. Je viens de vous dire chacun avec sa personnalité. Je crois que j'ai encore quelques minutes, ça joue. Chacun avec sa personnalité. Nos personnalités sont importantes pour Dieu. Dieu ne met pas de côté qui nous sommes. Il s'intéresse à notre personnalité. Et avec le Conseil d'Église, il y a quelques années, nous avons essayé de regarder un petit peu le profil de personnalité des personnes qui étaient présentes. Et de voir qu'est-ce que donnaient comme ministère ces profils de personnalité. Ici, je ne parle plus d'onction, mais bien de personnalités qui ont des caractéristiques qui font qu'ils peuvent exercer un ministère. Et je vais vous donner quelques éléments. J'ai de nouveau simplifié ces profils de personnalité. Par exemple, quelqu'un qui aime les nouveaux projets, qui aime innover, qui perçoit les dons des gens, qui met les gens en route, aura plutôt une personnalité d'apôtre. Quelqu'un qui aime passer du temps avec Dieu et avec la parole de Dieu, qui a le souci de découvrir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, il a peut-être une personnalité de prophète. Celui qui a le souci des personnes qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, eh bien, il a une personnalité plutôt d'évangéliste. Celui qui aime passer du temps à lire, à fouiller, à chercher, à creuser la parole de Dieu, il aura plutôt une personnalité de docteur. Et celui qui aime les gens, qui a une bonne capacité d'écoute, qui a le souci des personnes de l'assemblée, il aura plutôt une personnalité de pasteur. Donc nous avons tous, au travers de nos personnalités, nous avons tous une place dans la communauté. Nous avons tous un ministère à ce niveau-là. Parfois, c'est en groupe que nous allons exercer ce ministère. Vous avez par exemple dans la communauté des personnes, des personnalités qui ont ces caractéristiques des docteurs, qui se regroupent, qui préparent des études bibliques, et nous sommes les bénéficiaires de leur ministère. Nous avons la même chose au niveau des prophètes, nous avons la même chose au niveau de l'évangélisation, où un groupe s'est aussi retrouvé pour se dire « mais on a envie que l'évangile soit annoncé à Lausanne », et il y a ce stand qui est apparu, et un groupe s'occupe de cela. Donc ces ministères existent dans notre communauté et on a à les développer, sous forme de groupe ici. Ça remarche, de temps en temps, voilà. À côté de cela, bien, vous le savez, il existe les dons de l'Esprit qui sont dans la parole de Dieu. Vous trouvez ces dons dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12. Et ces dons sont importants. Vous avez les dons des miracles, guérison, assistance, direction, parler en langue. Et il y a même le don de service. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait aussi le don de service. Et ça, c'est important, être au service d'eux. Eh bien, ça fait partie des dons de l'Esprit. Vous avez aussi les dons naturels. ou qui paraissent naturels, les dons d'accueil, les dons d'administration, les dons techniques, les dons artistiques, tous ces dons peuvent être mis au service du Seigneur. Mais tous ces dons ne servent à rien, ils ne servent strictement à rien, si, et non seulement ils ont contribué, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Pour l'apôtre Paul, c'est bien de se donner au Seigneur, mais on ne peut pas travailler tout seul. Il dit que les Corinthiens se sont donnés à lui, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à sa suite et qu'ils se sont mis à travailler avec lui. Est-ce qu'on pourrait mettre à la place de nous, Paul, dire « ils se sont donnés à la communauté de Villars » et ils ont marché, ils se sont impliqués, ils se sont engagés dans la communauté de Villars. Où est-ce que je place la communauté dans ma vie? On se donne à Jésus-Christ. Il y a la famille, on donne beaucoup de temps dans la famille, beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps dans les loisirs. Où est-ce que je situe ma communauté dans mes différentes activités? Est-ce que ça vient après les loisirs, avant, ou est-ce que je la situe? Chacun peut répondre pour lui-même. Et j'aimerais terminer simplement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tous ces dons prennent toute leur valeur lorsque l'amour est là, l'amour du prochain, l'amour de la communauté, l'amour du Seigneur. Que nous mettions nos vies à disposition du Seigneur et que nous les mettions aussi à disposition pour construire le royaume de Dieu et pourquoi pas à Villars. Amen.